La nuit, un patrimoine radiophonique. Le plus surprenant des écrivains du sud des États-Unis, s'il n'est pas le plus célèbre, en France comme aux États-Unis du reste. Poète de l'adolescence tourmentée, l'écrivain qui inventa un monde insolite donna sa vision spirituelle de la maladie et de la guérison. William Goyenne. Une vie, une œuvre. William Goyenne par Christian Giudicelli. Première diffusion sur France Culture le 23 juillet 2000.
Je déteste les large cities, les grandes cités. Moi, je vis dans une forteresse. C'est ma chambre. La vie moderne ne m'intéresse pas. Therefore, moi, je crée ma own. La mienne. C'est très belle, très splendide, je crois. Et c'est plein d'amour, éroticisme. Je suis contente de vivre dans ce monde-là.
William Goyenne, 1915-1983, une émission de Christian Giudicelli, réalisée par Olivier Copin. Le monde de William Goyenne, tel qu'il l'évoquait dans l'entretien qu'il avait accordé en 1974 sur cette chaîne à Roger Vrigny lors d'un passage à Paris, ce monde ne ressemble à aucun autre. C'est un monde des confins qui emprunte beaucoup à la réalité, mais pour nous permettre d'accéder à une seconde réalité plus secrète, où les rêves et les désirs se transforment en des récits qui prennent parfois l'aspect de poèmes visionnaires. Son premier roman, La Maison d'Haleine, lui valut dans les années 50 l'admiration de lecteurs aussi attentifs que Bachelard ou Ernst Robert Curtius. En Europe, comme en Amérique, on découvrait un écrivain lyrique qui réinventait son enfance et donnait au petit coin du Texas qu'il avait vu naître une existence quasi légendaire. Ensuite parut un recueil de nouvelles, Le fantôme et la chair, où il reprenait les mêmes thèmes, ce qu'il fera d'ailleurs toute sa vie, en essayant chaque fois de creuser un peu plus profond dans le domaine qui était le sien. Il y eut à un moment une certaine désaffection, non pas d'un public restreint, mais qui demeurait fervent et fidèle, mais de la part des éditeurs. Dans les années 60, furent encore traduits en français Savannah et En un pays lointain. Puis il fallut attendre les années 80 pour pouvoir relire les dernières productions de Goyenne, les nouvelles de Précieuse Porte et le très étonnant roman Arcadio. William Goyenne avait disparu. Il connaissait une émouvante renaissance, cela grâce à un jeune traducteur, Patrice Repusseau, qui avait pris fait et cause pour lui et que nous entendrons longuement dans notre émission. Nous entendrons aussi, bien sûr, document d'archives, le premier traducteur de William Goyenne, Maurice Edgar Coindreau, à qui l'on doit, faut-il le répéter, la révélation de la grande littérature du sud des États-Unis, de Faulkner à Flannery O'Connor. Coindreau mettait très haut William Goyenne, comme il me le confiait dans un entretien de 1971, dont nous écouterons d'importants extraits. Participeront également à cet hommage Christine Jordis, l'une des meilleures spécialistes de la littérature anglo-saxonne, et l'écrivain Hector Bianchetti, qui se reconnaît quelques affinités avec William Goyenne. William Goyenne, auteur imprévisible, dont nous suivrons à travers quelques textes lus par Jean Bollery et Mathieu Mével, le voyage douloureux et ébloui, voyage qui nous mène loin et tout près, en nous-mêmes.
Enlevez le masque et regardez la chair avec toutes ses rides, toutes ces flétrissures, en nourrir le fantôme, le faire surgir de la tombe ou l'évoquer de la chair ulcéreuse où il parle. L'instant mort, le corps enseveli qui, à jamais, s'avance, se proclame lui-même, s'évanouit, reparaît. Trouver un symbole à aimer, un symbole d'amour qui nous met en mesure de toucher les choses originelles et permanentes, ici-bas où abondent les chroniques des faits et gestes passagers d'hommes de courte durée. Récits qui ne semblent guère plus que des contes d'enfants murmurés à une poupée à l'œil clignotant, un peu d'agitation et de tumulte, et ce petit monde brouillon qui est le leur, la poussière et la turbulence d'une bande de moineaux autour d'une flaque d'eau, ou le martèlement de leurs pattes grattant, piétinant un sol poussiéreux. Que proclamer ? Notre quête n'a qu'un but, trouver, lorsque les mots ne seront plus, quelque symbole de vérité, quelque instrument de la passion de notre vie qui nous permette de découvrir un sens que nous pourrons garder longtemps, longtemps. Le fantôme et la chair.
Portrait de William Goyen par son premier traducteur, Maurice Attard Coindreau, son découvreur en français. Archive INA, 1971.
C'est un homme qui avait un souci de la forme, qui écrivait une langue merveilleuse, qui était une âme de poète, et tout cela donne des résultats extraordinaires, comme par exemple dans le plus beau roman que, à mon avis, on ait publié dans cette période-là, et que je mettrai au niveau des meilleurs romans de Faulkner, La Maison d'Haleine est une œuvre que je ne vois pas, je ne sais pas, je ne peux la comparer à aucune.
Mais vous l'avez découverte comment, cette œuvre ?
J'ai dû voir un compte-rendu dans un journal de La Maison d'Haleine. Compte-rendu probablement extrêmement tiède et peut-être même très défavorable. Et d'après ce que disait le critique, j'avais tout de suite senti que ça devait être un livre très beau. Parce que très souvent, j'ai consulté les critiques, non pas pour suivre les conseils qu'ils pouvaient donner au lecteur, mais pour prendre exactement l'opposé de ce qu'ils disaient. Ça m'a souvent très bien réussi. Je crois que ça lui était indifférent, parce que c'était un homme qui vivait en lui-même, solitaire, pour qui la vie à la ville était une chose insupportable.
Si vous aviez à caractériser ce livre, vous diriez quoi ? Parce qu'il est très difficile de l'analyser, justement.
Il est très difficile de l'analyser, il est même assez difficile à lire. Je l'appellerais, si je prenais une terminologie gidienne, je l'appellerais une sorte de manuel de ferveur, parce que c'est en réalité un grand poème panthéiste, et en même temps une analyse psychologique de la solitude, de la douleur, de la souffrance humaine, des incertitudes, des difficultés que les gens ont à se connaître eux-mêmes. Bref, c'est un livre tellement profond et tellement plein de choses qu'il est très difficile de le définir simplement avec une seule phrase. Si vous avez remarqué, il est construit avec des appels qui viennent de loin, soit de la campagne, soit des personnages, soit des animaux. Le personnage central, c'est tout de même une maison, n'est-ce pas ? Le personnage qui revient a passé son enfant dans cette maison, il fait ressortir toute la vie de cette maison, simplement en appelant au fond d'un puits ou en faisant surgir des échos de tous côtés, afin de reconstituer toute la vie de cette maison autrefois, avec tous les drames qui s'y sont passés, avec toutes les souffrances que l'on a supportées, avec les quelques jours, il n'y en a pas beaucoup, car je ne connais pas de livre plus triste que celui-ci, mais je ne connais pas non plus de livre plus profond.
Et voici la maison. Aujourd'hui, la ruine a passé sur cette splendide maison déchue et y a fait son travail de ruine. Maintenant, ruine de l'enfance, retournant à la ruine, purgé de cette bile, de ce fiel de l'enfance, dans le vide immaculé de la mémoire. Venez par la prairie qu'on appelle le pré de Bailey, où les millions de pissenlits, comme des petites têtes réunies et brillantes, tissent leurs broderies lumineuses. Venez à travers la moutarde en fleurs, le trèfle, la végétation folle, par le sentier envahi par les herbes qui nous servaient de raccourci pour aller à la ville quand il n'y avait point quelque tente de cirque ou un prêche en plein air. Voici l'endroit où repose une vache brune, tachetée. Vous vous rappelez, nous l'appelions Roma quand elle était génisse et nous nous amusions à grimper sur son dos, qui rumine l'indestructible mauvaise herbe du temps. Plus loin, voici le monde silencieux, affairé et nerveux d'une fourmilière qui continue à grouiller, à travailler sans souci de la décrépitude des splendides maisons déchues ni de la chute des roues hydrauliques brisées. Bruit régulier de la rumination, lente mouture, rythmée, quête éternelle, rouge scintillante des fourmis et l'éternel, l'inaltérable cycle des fleurs. Les blanches d'abord, puis les rouges, les bleus, les violettes, et finalement, la splendeur des jaunes, tout cela tourne, tourne sans cesse, en un mouvement perpétuel, se moquant de la route tortueuse qui, par-dessus les échaliers tortueux, mène les familles à travers les souffrances, les échecs et la mort, jusque dans un paradis tortueux. Si vous venez par là, environ ce temps-ci, à travers le pré de Bailey, vous atteindrez bientôt et devrez traverser les rails gondolés, rouillés, du chemin de fer qu'on appelait Katy Railroad. Et les ayant franchis, vous verrez devant vous cette maison. Vous croirez entendre une voix. D'où vient-elle? De la fenêtre, aux persiennes fermées? De la véranda, de la cave? Du grenier? Elle murmure. Mais qui donc arrive par ici à travers les herbes folles? Qui donc revient au foyer à travers l'humidité des bas-fonds? Si c'est toi, Berry Ben Ganson, tu reviens après une très longue absence, et tu reviens trop tard, car ta mère, Melle Ganson, est maintenant aveugle par suite de cette cataracte qui pendant si longtemps lui avait presque ôté la vue. Derrière la persienne fermée, seule dans cette maison, elle guettait ton retour. Si c'est toi, Sue Emma Starnes, tu arrives trop tard aussi. Et si c'est quelqu'un d'autre, alors c'est pour eux tous que celui-là revient, en leur nom, pour fouiller, explorer à son heure, pour trouver un sens et un langage et un nom. La maison d'Allen.
Il est intemporel, je ne vois pas comment il peut vieillir, ce livre-là. À moins que les hommes finissent avec le progrès par perdre toute espèce de sensibilité, toute espèce de puissance de s'émouvoir sur les souffrances humaines, ce livre est forcé d'exister.
He's got the whole world in his hands, he's got the big round world in his hands, he's got the wide world. In his hands, he's got the whole world in his hands. He's got the wind and the rain. In his hands, he's got the moon and the stars. In his hands, he's got the wind and the rain. In his hands, he's got the whole world in his hands. He's got the gambling man right. In his hands, he's got the lying man right. In his hands, he's got the crapshoot man. In his hands, he's got the whole world in his hands.
C'est Marianne Anderson qui m'a donné de connaître pour la première fois un moment de véritable spiritualité. Quand elle se mettait à chanter, elle devenait soudain un pur instrument de l'esprit, un pur esprit. Sa bouche permettait ce moment de grâce qui dépassait de loin sa technique ou le chant proprement dit. La lumière et le feu l'habitaient. J'avais 16 ans. Je m'identifiais à elle totalement et sans réserve. Je me suis dit, voilà ce à quoi j'appartiens, ce d'où je viens. C'est pour cela que je me sens si seul, parce que j'appartiens à ce quelque chose.
He's got everybody in his hands, he's got everybody in his hands, he's got everybody here, right in his hands. He's got the whole world in his hands.
Patrice Repusseau, après Maurice Edgar Coindreau, qui avait traduit La Maison d'Haleine et Le Fantôme et la Chair, vous avez été vraiment le traducteur attitré de William Goyenne. William Goyenne représente énormément pour vous. Vous allez nous dire pourquoi et comment. Et j'aimerais d'abord que vous nous disiez comment vous avez été amené à découvrir l'œuvre de William Goyenne.
Oui, ça s'est passé alors que j'étais étudiant, en deux ou troisième année. À l'époque, je pensais faire un mémoire de maîtrise sur l'humour noir, parce que j'étais un petit peu ténébreux à cette époque-là. Et puis chez Gibert, j'ai vu ma main se diriger vers un livre dans la tranche indiquée, La Maison d'Haleine. J'ai pris ce livre, je ne savais pas pourquoi. Et je suis allé voir mon professeur, qui s'appelait Michel Gresset, qui m'a dit, c'est pas vrai, un étudiant qui a un livre de William Goyenne, il était stupéfait. Moi aussi, d'ailleurs, je ne savais pas pourquoi j'avais choisi ce livre. Et c'est seulement maintenant, là, quelques décennies plus tard, que je commence à comprendre pourquoi j'ai rencontré William Goyenne, parce que je me rends compte qu'il ne s'agit pas du tout d'une rencontre littéraire. C'est quelqu'un qui a labouré mon existence et qui m'a permis de me rapprocher de moi-même. J'avais une vingtaine d'années, oui, donc je ne me rendais absolument pas compte de ce qui venait de se passer. C'est seulement maintenant, je vous dis, que je me rends compte que William Goyenne, finalement, il était en moi depuis le début. C'était un pan de mon existence qu'il me fallait découvrir, et donc en traduisant Goyenne, en mâchonnant sa langue pour essayer de la restituer le mieux possible en français, j'étais en train de me mâcher moi-même, de me digérer moi-même, et c'était une expérience très proche de la thérapie, on peut dire.
Mais cette reconnaissance, quand vous avez abordé justement la Maison d'Haleine, quand vous l'avez lu très jeune, vous l'avez senti tout de suite ou ça a été quelque chose qui est venu petit à petit ?
Tout de suite, j'ai senti que j'étais dans un fleuve que je connaissais très bien. Mais mon intellect aurait été incapable de le dire, mais disons que mon plexus solaire l'avait reconnu tout de suite. Donc c'était quelque chose de purement vibratoire. J'étais dans un monde que je connaissais très bien, avec des peurs, des terreurs, des hantises, des obsessions aussi, qui étaient les miennes, quelque part. Et découvrir William Goyenne, c'était me découvrir moi-même.
Nous allons parler plus précisément justement de cet aspect qui était extrêmement important pour vous et pour William Goyenne. Mais j'aimerais savoir tout d'abord comment, au fond, vous avez été amené à le connaître. Parce que c'est pas forcément, justement, quand on rencontre quelqu'un qui vous est si proche, on n'a pas littérairement et intérieurement, on n'a pas forcément envie de connaître celui qui écrit.
Oui, mais alors tout naturellement, quand j'ai signalé à Michel Gresset que je connaissais William Goyenne, il était tellement stupéfait, il m'a dit, mais c'est extraordinaire, Maurice Coindreau vient de rentrer des États-Unis, et à l'époque, Maurice habitait Passage d'Enfer, et donc moi, tout jeune étudiant, je suis allé voir Maurice Coindreau, et alors là, je dois dire, c'était extraordinaire, puisque j'avais droit à une bonne rasade de Bourbon, et j'avais droit à Radio Coindreau, ce que j'appelais Radio Coindreau, donc j'avais en face de moi quelqu'un d'éminent qui avait une culture phénoménale, et surtout dans le créneau qui était le mien à l'époque, puisque je faisais des études de littérature américaine. J'entendais parler de Flannery O'Connor, de Faulkner, enfin de tous ces grands écrivains, et de William Goyenne, car je me suis rendu compte très très vite que William Goyenne était très probablement le préféré de Maurice Coindreau, pour une raison bien précise, c'est qu'en plus de l'œuvre proprement dite, et que Maurice Coindreau admirait, l'œuvre de William Goyenne, il a eu avec lui des rapports qu'il n'a jamais eu avec aucun des autres écrivains qu'il a traduits. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce, c'est instauré entre eux deux une espèce de rapport de père à fils, en quelque sorte, et William Goyen donnait des manuscrits à lire à Maurice Coindreau, en particulier le manuscrit du livre qui vient juste de paraître en français, et qui s'appelle mot à mot, c'est un demi-regard de Caïn, mais ça a été traduit par à moitié Caïn, ça a paru l'année dernière. C'est un livre qui a failli rendre Goyen fou, parce que c'est un livre tellement intime qu'il n'arrivait pas vraiment à maîtriser tout, et il a donné ce manuscrit à lire à Maurice Coindreau, lequel lui a conseillé de ne pas le publier tout de suite, parce qu'il estimait que ce n'était pas mûr, et Goyen en a tenu compte. Donc c'est pour vous expliquer qu'il y avait un rapport tout à fait, extraordinaire. Oui, ça sortait vraiment de l'ordinaire entre l'écrivain et son traducteur.
Other side in God we trust. I need to know the seas on a dollar. Other side in God we trust. Well, I want to love the man, but I know this dollar's worth.
Entré en relation épistolaire d'abord avec lui. À une époque charnière, j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis entré dans l'existence de William Goyen. À une existence charnière, il sortait d'un très long tunnel traversé du désert, très très longue, et il venait de republier deux livres. Un qui est assez étonnant, qui s'appelle Un livre de Jésus, en 1973, qui avait d'ailleurs... que Maurice Coindreau avait détesté parce qu'il ne comprenait pas quelqu'un de la trempe de William Goyen ait pu se rabaisser à écrire l'existence de Jésus-Christ, en quoi il avait parfaitement tort, parce qu'il se trouve que Goyen a découvert la parole de Jésus et en particulier le « ici et maintenant », ce que ça signifie. Toute sa vie, Goyen a essayé de fuir. Partout où il était, il fallait partir. Il ne pouvait pas rester en place. Il n'a appris que vers la fin de sa vie, vers la soixantaine, à pouvoir rester immobile, en paix, quels que soient les événements, rester immobile. Et ça a été une découverte fondamentale, donc, qui a poussé Goyen à écrire ce livre. Alors, ce livre, il a été tapé par sa belle-mère juive. Alors, c'est une précision que j'ai plaisir à signaler, parce que le père de Goyen était membre du Ku Klux Klan, et que... C'est quand même stupéfiant quand on voit un fils d'un membre du Ku Klux Klan qui fait taper un ouvrage par une dame juive. Je trouve ça extraordinaire d'humour. D'ailleurs, Goyen, à la fin de sa vie, a demandé à être enterré très très loin des siens, chez qui il a soi-disant toujours voulu revenir. Il a voulu être enterré à côté de sa belle-mère juive à New York, et très très loin justement de la fameuse maison, du retour impossible à la maison.
Oui, c'est curieux parce que là, on entrera dans les livres un peu plus tard, mais malgré tout, on se souvient de ce passage dans la maison d'Allen où Ben Berry Ben dit à sa mère, tu sais pourquoi, je paraphrase un peu, c'est pas la phrase exacte, mais le sens c'est ça, tu sais pourquoi je fuis, pourquoi j'ai envie de partir, c'est pour mieux revenir.
Oui, alors il fuyait, il faut expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Goyen est né en 1915 dans l'est du Texas. Son père était bûcheron et travaillait dans l'abattage des bois. Et lorsque Goyen a eu 8 ans, la scierie a périclité. Les gens avaient tellement dévasté cette région qu'il n'y avait plus de bois à couper. Donc la scierie a fait faillite et le père a dû trouver du travail. Et la mère, en quittant son pays... a compris que c'était la fin d'une espèce d'Éden perdu, et Goyen s'est rendu compte que sa mère ne se remettrait jamais de ce chagrin terrible. Il a épousé la cause larmoyante de sa mère, il est devenu celui-celle, puisqu'il était lui et il était très fortement sa mère aussi, dans cette nostalgie de ce jamais plus, de ce retour à la maison impossible. Alors... Pourquoi revenir ? Parce que sa mère n'arrêtait pas de pleurer. Une fois la famille installée à Houston, Goyen entendait sa mère pleurer, mais au sens propre. Après cette maison du souvenir, il fallait revenir comme sa mère souhaitait le faire sans arrêt. Et même lorsque Goyen avait 60 ans, il m'a dit qu'il parlait à sa mère au téléphone des fois pendant une heure d'affilée. Il entendait sa mère qui lui disait « on va rentrer à la maison ».
Écoute-moi encore une fois, maman, et je vais essayer de te dire pour la centième fois ce qui m'a forcé à partir. J'écoute, Ben, mais laisse-moi regarder ton visage. Je ne peux pas voir ton visage, Berry Ben. C'est parce que tu n'ouvres pas la persienne, maman. Parce que tu n'ouvres jamais la persienne. Mais je vais te dire si je peux. La vraie raison de mon départ, c'est que je voulais pouvoir revenir. Mais ce sera trop tard, alors. Ou bien je serai trop aveugle pour voir ton visage, ou bien je serai morte et disparue. Il n'est jamais trop tard pour revenir, maman. C'est simplement que quelque chose m'appelait loin des dimanches sur la véranda, loin des enfants dans le jardin, loin des chagrins, de la douleur et de l'amertume d'Auntie et de grand maman Ganchion, loin du grincement rouillé de la roue hydraulique. J'entendais cet appel quand j'étais perché dans l'arbre de la poule noire, quand j'étais dans les champs, quand je tapais sur mon piano de carton dans le bûcher. Il me semblait qu'il y avait quelque chose de plus magnifique que la solitude de Charity. Quelque part, je trouverais quelqu'un pour me comprendre. Je pourrais prouver mon sang, chercher et trouver les touches d'un piano qui jouerait véritablement au lieu d'un simulacre. Mais plus encore, un appel anonyme qui s'efforçait de me faire abandonner cette vieille vie tranquille et morte de Charity. Les coutumes de ce petit monde qu'est Charity, délimité par une voie de chemin de fer, une scierie et une prairie déserte. Tout ce que je sais, c'est qu'il y avait en moi quelque chose de dérangé. Et après avoir découvert le changement qui s'était opéré en moi, j'ai résolu de faire l'impossible pour le garder intact, pour ne pas le laisser mourir en moi. Il fallait que je l'écoute, cette chose, cette voix, que je l'écoute en moi, exactement comme tu écoutes ce qui chante dans ta persienne. La scierie a bien tenté de l'étouffer, cette voix. La roue hydraulique l'a bien tenté aussi. Il fallait bien que je la sauve, que je l'écoute. Et c'est pourquoi je suis parti. Je ne veux pas vivre si je ne peux pas entendre cette voix. Quand j'étais à la maison, tu me suivais de chambre en chambre en répétant « Si seulement tu me disais ce que tu as, ce qui te change ainsi, si seulement tu m'expliquais, Ben. » Et quand je t'écartais, cela me fendait le cœur et te fendait le cœur et tu prenais mon visage entre tes mains comme si tu pouvais me tenir ainsi pour toujours. Prisonnier de tes pauvres vieilles mains et tu me disais en pleurant « Ben, Ben, Berry Ben ». Et je savais alors que jamais je ne pourrais te dire ce que c'était. Que je ne pourrais que te fendre le cœur à nouveau et pour l'éternité. Mais brusquement quelque chose qui nous dépassait, quelque chose de plus grand que nous, nous a délivrés l'un de l'autre. Nous avons déchiré nos cœurs parce que nous étions sans pouvoir contre cette chose qui était venue se placer entre nous et nous avait brutalement séparés. Cette chose, c'était aimer quelqu'un. La maison d'Allen.
Quel était ce lieu, en fait? Je crois qu'il faut quand même bien le définir, parce que c'est quand même capital dans la vie et dans l'œuvre de William Goyen. C'est-à-dire, c'est une bourgade, disons,
qui s'appelle Trinity,
que l'on trouve dans tous les livres de Goyen sous le nom de Charity.
Oui.
Or, ce qui est très étonnant, c'est que William Goyen n'y a vécu, finalement, que jusqu'à 7-8 ans.
Il a eu l'occasion, de...
Et finalement, tout le... je ne dis pas le décor, parce que ce serait absurde de parler de décor par rapport à ce lieu, mais tout ce qui nourrit son œuvre, c'est tous ces paysages, c'est la rivière, c'est le pré de Bailey, c'est tous les personnages qu'il a vus à ce moment-là, et qui vont le poursuivre toute sa vie, alors que lui, justement, sera quand même parti.
Alors c'est très étonnant, il a eu l'occasion à plusieurs reprises de dire qu'à 7 ans, il avait vécu sa vie. Alors c'est stupéfiant, ça veut dire qu'à 8 ans, il était mort, puisqu'il avait vécu sa vie à 7 ans. Donc et c'est vrai que la majeure partie de sa vie d'écrivain a consisté à reproduire, à replonger dans cette bulle minuscule de Trinity Charity, de ses 7 premières années, mais qu'il a tellement approfondi, qu'il a tellement fouillé, qu'il lui a permis d'accéder à une dimension universelle. Donc cette minuscule bulle était un véritable océan cosmique dans lequel il a trouvé, il a puisé des choses extraordinaires, parce que c'était un être, c'était un écorché, Goyen, il avait des antennes, des radars, et tout ce qui s'est passé, il les a enregistrés, il s'est passé des choses... pour certaines monstrueuses en particulier. Il a été témoin à 2 reprises, m'a-t-il dit, de lynchage de Noirs, et en particulier devant chez lui, il a vu des Noirs à qui on venait de faire subir les pires monstruosités courir en hurlant, enduit de goudron et de plumes. Alors, inutile de vous dire qu'un enfant hypersensible qui subit ce genre de spectacle dans sa toute petite enfance, cet enfant passera son existence entière à essayer de se remettre de ce genre de traumatisme. Et d'ailleurs, les tout derniers textes de la fin, en particulier les textes d'Arcadio et de Précieuse Porte, qui sont parus tous les deux de façon posthume, sont des textes qui reviennent là-dessus, sur toutes ces horreurs du Ku Klux Klan, ces histoires de castration, d'émasculation et en même temps de salut. Il fallait se sauver.
Ça arrive assez tard dans l'œuvre d'ailleurs. Au fond, La Maison d'Haleine ou Les Premières Nouvelles, il y a moins d'aspects horrifiants quand même.
Disons qu'ils sont là, mais en filigrane. Quand on connaît très très bien l'œuvre de Goyen, on s'aperçoit que tout est dans tout et réciproquement. Dans La Maison d'Haleine, il y a tous ses livres, ils sont tous là, tous les personnages sont là, parfois ils ne font que passer, mais tout est déjà écrit. Dans le deuxième livre, ça va être pareil, mais à chaque fois, c'est comme un trépan qui fort, à chaque fois, il va descendre en lui-même d'un degré, et c'est toujours la même histoire, mais elle sera toujours différente, parce que lui-même sera toujours différent, son point de vue aura été modifié, et il aura sur toute sa douleur, sa souffrance personnelle, celle de sa famille, disons, un point de vue différent, et la lumière dont il pourra éclairer son histoire sera perpétuellement différente.
À votre avis, c'était quelqu'un qui donnait l'impression d'être un peu absent au monde, ou au contraire, d'y être très présent?
Bon, les deux, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui était dans sa... Il disait qu'il aurait pu être en Lituanie ou sur la Lune quand il était en train d'écrire. Mais en même temps, c'était un être extrêmement chaleureux, qui avait un grand amour, un grand cœur, et qui avait envers les êtres une espèce d'empathie, un grand amour. Il m'en mal quand la première fois que je l'ai vu, il m'a pris dans ses bras, il ne m'avait jamais vu. Il m'a serré contre son cœur, moi je dois dire, ça m'a fait un drôle d'effet.
Je n'ai toujours pas d'éditeur pour Arcadio, ni pour le reste d'ailleurs. Mais l'attente ne me pèse pas. J'écris de nouveaux passages d'Arcadio. J'ai d'autres textes qui n'ont pas trouvé d'éditeur, plusieurs nouvelles, mes souvenirs sur Frida Lawrence et d'autres femmes. Mais ce n'est pas grave. Publier ne m'intéresse pas. La publication de mes textes a toujours été pour moi une aventure triste, jamais gratifiante. Les éditeurs américains, français, allemands, etc., ne m'ont été d'aucun secours. J'écris depuis plus de 30 ans et pas un de mes livres n'est disponible en librairie. Je peux donc vivre sans être publié. L'écriture me procure un vif plaisir et en ce moment, écrire pour moi-même me comble de paix. Les lecteurs, les livres, les critiques, les comptes rendus, tout ça ne m'apparaît pas très sérieux. Du moins en ce moment. Je suis plein de mon œuvre. Et je travaille tous les jours dans mon petit bureau d'Hollywood, caché dans le coin d'un immeuble minable. Je pourrais aussi bien être en Lituanie ou sur la Lune. Lettre à Patrice Repusseau, Los Angeles, 14 janvier 1981.
De par son travail d'écrivain, il était obligé de s'isoler. D'ailleurs, un jour, il m'a fait cette réflexion sur ce sujet-là. Il m'a dit, est-ce qu'il est possible de s'isoler du monde pour créer sa propre toile, alors que peut-être sur le palier d'à côté, il y a quelqu'un qui souffre et qui a besoin de moi. Ça, je veux dire, j'oublierai jamais ça. Qu'est-ce que ça veut dire que je m'enferme pour écrire une œuvre si en face, il y a quelqu'un qui est en train de souffrir, qui est en train de mourir et qui peut-être a besoin de moi. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un...
C'est presque la notion de l'infirmier qu'on retrouve dans certains de ces textes, d'ailleurs.
Oui.
L'écrivain est presque aussi l'infirmier des âmes, en fait. Oui.
Ah oui, parce que lui, il fallait qu'il se guérisse. D'ailleurs, lui-même a dit à plusieurs reprises qu'il était malade. Il était malade de la nostalgie de sa mère. Il était malade de cette nostalgie. Il fallait qu'il se guérisse du jamais plus, du jadis, pour accéder au maintenant. À la richesse du présent, cette espèce de source vivante. Donc la guérison était absolument nécessaire pour lui, car sa mère l'avait en lui faisant miroiter ce retour finalement monstrueux, Goyen a mis des années à se rendre compte que le retour à la maison était toujours un faux retour. Rentre à la maison, Ben Berry Ben, la lumière est allumée. Mais il s'aperçut qu'à chaque fois qu'il rentrait chez lui, la lumière, c'était pas une lumière, c'était les affres, les douleurs de la famille. Il retrouvait en particulier sur la porte vitrée de la maison, il y avait un cavalier dont le cheval se cabrait et semblait vouloir faire fuir le visiteur. Ce n'est que dans le dernier livre que cette maison, la maison du souvenir, est détruite par un incendie. Il a fallu attendre donc la veille de la mort pour qu'il se lave lui-même de tout ça. Donc il s'est lavé du retour. Le retour est impossible. Sa mère, par cette mémoire maniaque, l'emmenait en enfer. Donc Goyen a mis très longtemps à comprendre que la mémoire, dans ce qu'elle est une mémoire nostalgique, c'est une mémoire de destruction pure qui empêche d'accéder à ce que nous sommes véritablement.
Mais cette douleur, cette nostalgie qui est très présente justement dans La Maison d'Haleine, son livre qui reste le plus célèbre, on peut dire que malgré tout, déjà dès La Maison d'Haleine et dès les premiers textes, elle est un peu contrecarré, si je puis dire, par aussi quelque chose qui est de l'ordre de la célébration. On ne peut pas dire que tout soit nostalgique ou dramatique dans La Maison d'Haleine. Il y a aussi, malgré tout, quelque chose qui célèbre l'eau lustrale, qui célèbre la rivière, qui célèbre quelques paroles, quelques voix. Tout n'est pas entièrement de l'ordre de la douleur, déjà dès ce livre.
Dès ce livre, parce que Goyen, c'est un véritable poète. Hein. Alors, il n'a jamais écrit de poèmes véritables. Si, il a écrit quelques poèmes qu'il n'estimait pas beaucoup, d'ailleurs. Mais c'était un poète véritable, c'est-à-dire quelqu'un qui était inspiré. C'est un mot qui n'a plus beaucoup de sens, être inspiré. Mais Goyen, il y avait des moments de, où, disons, des expansions de conscience dont on retrouve trace justement dans Le Chant de la rivière, par exemple, où d'un seul coup le jeu, puisque il a mis en exergue de La Maison d'Haleine la phrase de Rimbaud, jeu est un autre. Donc il y avait un jeu qui souffrait, puis il y avait un autre. Il sentait bien qu'il n'était pas cet être qui souffrait et qui était réduit. Il était un être que nul ne pouvait limiter et qui avait une dimension extraordinaire. Et c'était les moments d'inspiration dont on trouve des échos dans La Maison d'Haleine, en particulier dans Le Chant de la rivière, où il dit « Je plane, nul ne pourra jamais me retenir, personne ne peut me circonscrire, je suis intemporel, consubstantiel à toute chose, je participe du tout. »
Donc déjà, il y a déjà une jubilation.
Une jubilation de l'être. Et en même temps, alors, et on trouve son contraire, c'est la jubilation génitale. Je dis bien génitale et pas sexuelle, parce que chez Goyen, il y a une fascination pour les organes de la génération. Et donc, il y a également dans La Maison d'Haleine des passages jubilatoires concernant la découverte de la sexualité. Alors, au cours de son œuvre, il y a une évolution considérable par rapport à ces choses sexuelles et génitales. Et à la fin de sa vie, il a pu dire, dans un entretien extraordinaire avec Reginald Gibbons, il a pu dire que tout ce qui était désir sexuel pour lui, c'était l'œuvre du démon. Et que là aussi, il a mis beaucoup de temps à faire la différence entre la sexualité et l'amour. Et il a compris, sur le tard, que l'amour véritable n'avait strictement rien à voir avec la sexualité et le désir sexuel, qu'il appelle souvent la lubricité ou la luxure, parce qu'il était né dans une famille méthodiste où on lisait beaucoup la Bible du roi James, donc c'était le mot qui était utilisé.
Mais ce que vous nous dites là nous fait penser quand même à pour employer un terme un peu vague, mais à une espèce de puritanisme révolté, comme pouvait l'avoir William Faulkner, dans un autre registre. Séparer l'amour de la sexualité est déjà une chose qui ne va pas de soi, enfin qui est déjà une critique très très violente de la vie, d'une certaine façon.
Oui, alors là, c'est une question très intéressante. Mais disons que c'est... Bon, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un système. Goyen, quand il disait ça, il parlait d'expérience. Il parlait d'expérience. Et je sais d'expérience aussi, pour l'avoir vu s'intéresser à des images qui laissaient très peu de place à l'imagination, qu'il était très fasciné par des représentations très érotiques. Mais en même temps, il savait que le désir sexuel ne pouvait amener qu'à la jouissance et que la jouissance, c'était pas la joie. Alors justement, le personnage d'Arcadio, dans le dernier livre, cet hermaphrodite qui commence par se damner dans un bordel et à devenir la créature des êtres, à être utilisé, à être la créature de sa propre frénésie, fureur sexuelle, cet être finit par un jour se regarder dans la glace et il dit qu'il a vu un visage démoniaque et qu'il était foutu. Il s'est rendu compte qu'il était foutu, mais au sens sexuel et au sens, comment dire, total, c'est qu'il était foutu. S'il continuait à être la créature et à se laisser aller à ses penchants qui étaient gigantesques, à cet appétit, à cette fureur qui était énorme en lui, il finissait en enfer. Donc il fuit ce bordel. Il va dans un cirque et il devient une créature. C'est une créature qu'on exhibe comme une curiosité. Un jour, quelqu'un lui tend un petit livre qui est la Bible. Et cette Bible devient son, comment dire, son livre de chevet. Et il comprend peu à peu que Jésus, c'est pas un être de luxure, c'est un être d'amour. Et un très beau texte qu'il a écrit juste quelques mois avant de mourir s'appelle « Guérison, renouement ». Et c'est un texte sur la délivrance.
On est en droit de s'interroger sur la nécessité d'un rétablissement pour l'écrivain. À quoi bon guérir? Pourquoi ne pas se contenter de redonner ce qui a été, sans rien changer, et ce qui est tel quel? Pourquoi guérir? Pourquoi ne pas laisser les choses aller à volo? Pourquoi lutter? Pourquoi ne pas se rendre et mourir? C'est ce que doivent penser ceux qui ne sont pas guéris. Dans les années 50, il y eut la vogue des malades et des incurables. Le poète était fou et perdu. Certains redoutaient que la santé recouvrée anéantît la poésie. Si, par la grâce de Dieu, on se désaccoutumait de vieux poisons, l'art allait-il disparaître pour autant? Le chant du poète trouvait-il sa source dans les amphétamines et dans le gin? On portait au nu ces poètes que l'on disait perdus et maudits. L'écriture était-elle en mesure de les guérir? Le poème constituait-il un rétablissement? Le poète en voie de guérison était le poète créateur, le poète fertile et productif. Dans les salles d'université, j'ai eu l'occasion d'écouter des poètes de passage, des poètes malades, incompréhensibles, tant ils étaient abrutis par l'alcool et les stupéfiants. De nouveaux poèmes allaient-ils pouvoir les guérir? Et s'ils étaient capables d'écrire leurs poèmes une fois dégrisés, allaient-ils bien se porter? Le désir, la volonté de faire d'autres poèmes pouvait-il les tirer d'affaire? ex opera operandis, dans le pouvoir de l'œuvre elle-même, celui de l'auteur. Ceux qui ne sont pas guéris. Non seulement je les ai bien connus, mais j'ai été des leurs. Ceux qui ne sont pas guéris ne veulent pas lâcher leur mal, c'est-à-dire s'éveiller. Ils choisissent l'hypnotisme de la maladie et ne veulent pas lutter avec elle, encore moins en attendre une bénédiction. Mais je suis convaincu que la douleur et l'affliction sont porteuses de bénédictions. La maladie est une condition spirituelle. Elle nous amène à découvrir quelque chose qui nous avait jusque-là échappé, la signification de notre souffrance. Ainsi, se rétablir, recouvrer la santé, peut en ce sens nous faire envisager la maladie passée avec infiniment de joie et de gratitude.
Hector Bianchotti, j'aimerais savoir comment vous avez découvert les livres ou un livre de William Goyen. William Goyen sur lequel vous aviez écrit naguère un long article dans le journal Le Monde.
Oh ben, il y a très très longtemps que j'avais lu Goyen, bien avant de faire cet article. Mais je ne peux pas le dire. Quand, je crois que c'est dans les années 60. Je crois que c'est Léonore Fini qui m'a fait lire le premier roman de Goyen.
La Maison d'Haleine. Premier...
Oui, la Maison d'Haleine. Mm. Je crois que après, j'étais très content de lire une série de petits livres avec des contes ou des nouvelles. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très extraordinaire dans Goyen. De toutes les nouvelles que j'ai lues, je crois qu'il a dû écrire une cinquantaine, mais je n'ai lu qu'une vingtaine. Il y a cette nouvelle qui a un titre « Précieux se porte ». Il y a une chose assez extraordinaire, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on est dans la campagne, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font ces gens, peut-être de l'agriculture, et on annonce un orage, plus qu'un orage, une de ces tempêtes qui risque d'anéantir. On découvre qu'il y a un blessé dans les champs. Et alors, on le ramène à la maison. Il a été touché par un couteau. Et il est mourant. Il ne peut plus s'exprimer. Et il y a ce sentiment de père qui le prend comme ça dans ses bras pour le porter dans la plus belle chambre de la maison. Et le fils, qui n'a que 10-12 ans, trouve aussi que c'est étonnant que son père fasse ça devant cet inconnu blessé, mais en même temps, il trouve que c'est quelque chose qui le fascine lui aussi. Et quand il touche le front, il éprouve comme une sorte de, je dirais même, d'amour. Et d'amour, et quand il sent qu'en dépit de tout ce qu'a fait son père pour le sauver, il meurt, il pleure comme s'il l'avait connu. Et ça, c'est ce sentiment comme ça qui peut, un étranger, un inconnu qui soudain on aime. On aime comme ça.
William Goyen a été quelqu'un qui a eu cette vision dans son enfance d'un paysage que finalement il transportera toute sa vie, dont il voudra se délivrer, mais qui pourtant est toujours dans tous ses livres. Vous-même, Hector Bianchotti, est-ce que vous êtes sensible à ça dans la mesure où la terre de votre enfance a disparu? Est-ce que vous avez la sensation que ce qui se fait chez un écrivain dans les toutes premières années, ce sera effectivement un ensemble d'images que vous retrouverez tout au long de votre vie en écrivant? Ça me semble sensiblement différent quand même chez vous.
Non, je ne crois pas. Je crois que pour moi, ce n'était pas des images. C'était une réalité absolue.
Pour Goyen aussi, du reste, je l'appelle image, au fond, ce qu'on se crée à l'intérieur par rapport à ce qu'on a vu.
Non, oui. Je veux dire, pour moi je parle d'une plaine, et peut-être lui aussi, il était dans une plaine, parce que c'est le Texas, n'est-ce pas? Oui. Et le Texas ressemble un peu à la Pampa, où je suis né, où j'ai vécu jusqu'à l'âge de 11 ans. Et quand même, le Texas a soudain de très belles maisons, comme on voit dans les films, n'est-ce pas? Dans la Pampa, non. Et j'ai l'impression de ne pas être sorti encore de la Pampa, parce que rien qu'à penser et à imaginer ce que j'ai vécu, j'ai peur.
Mais là où, justement, une chose sur laquelle nous pourrions réfléchir par rapport à votre œuvre et par rapport à celle de Goyen, c'est que dans les livres de Goyen, par exemple, tous les personnages, ou presque, ils ont l'idée de s'en sortir, de partir. L'idée du départ est absolument fondamentale, même si certains vont revenir. Mais ils vont revenir d'ailleurs en piteux état, notamment dans la maison d'Alain. Mais c'est l'idée du départ, et c'est l'idée aussi du départ dans l'œuvre, je pense, dans un voyage qui mènera au-delà de ce qu'on a vécu, c'est-à-dire qui mènera à travers les livres à sa propre réalité.
Oui, c'est possible, mais je veux dire que le fait de partir, c'était une obsession depuis que j'étais gamin, et alors que nous sommes 7 frères et sœurs, 6 n'avaient pas ce sentiment de désespoir d'être là où on était, et donc quand on est désespéré par un paysage, on a envie d'en sortir et de partir. Moi, j'ai toujours voulu partir. Je suis parti, j'ai quitté la campagne. Je pense que Goyen, je ne sais pas pourquoi, il a quitté à 7 ans son pays, disons, pour aller ailleurs, je ne sais pas, c'est sans doute une question de famille.
De famille d'abord, et bien entendu, oui.
Je crois que quand on n'est pas retourné, alors ça devient très très fort, et surtout si on est un écrivain, c'est très fort. C'est-à-dire, c'est vraiment peut-être l'essentiel de ce qu'on va écrire a été déjà là et dans la fuite de ces lieux.
Christine Jordis, vous avez écrit des essais qui font autorité sur la littérature anglo-saxonne, notamment De petits enfers variés, notamment Jean de la Tamise qui a obtenu le prix Médicis Essai. Et évidemment, ces livres concernent plus la littérature anglaise, mais nous savons par ailleurs que chez Gallimard, vous occupez de tout le domaine anglo-saxon. Et vous connaissez donc parfaitement la littérature américaine, et vous connaissez aussi parfaitement William Goyen. J'aimerais savoir comment vous l'avez découvert.
William Goyen, je suis venue à lui par La Maison d'Haleine, qui est probablement son livre le plus célèbre, qui a été traduit par Maurice Edgar Coindreau. William Goyen a vraiment un univers intérieur, un univers de visionnaire, qui est d'une telle force qu'on est aspiré dedans. Comme si la frontière séparant la réalité, le monde du dehors et le monde du dedans, comme si cette frontière s'échappait et que le monde extérieur n'était plus que le reflet de ce que nous avons en nous-mêmes, qui est d'une force chez William Goyen extraordinaire. Il a vraiment un monde. Voilà ce à quoi je suis sensible et ce qui me semble la chose la plus rare dans la littérature. Il y a des gens comme Faulkner, évidemment, dont William Goyen peut-être s'inspira. Il y a des gens comme Lawrence. Je trouve qu'il a un rapport, d'ailleurs, avec D.H. Lawrence. Il a vécu au Nouveau-Mexique, comme D.H. Lawrence, et l'un de ses livres est dédié à la femme de Lawrence. L'un de ses titres, celui du livre qu'il n'a pas publié, était emprunté à David, la pièce de D.H. Lawrence. Donc moi, je vois des rapports entre ces hommes qui avaient vraiment un génie, ce qui n'était pas seulement un talent d'artiste, mais un monde à eux.
Mais vous n'avez pas l'impression justement que l'ancrage, on peut le dire, de William Goyen dans sa petite ville de Trinity, qui est devenue après Charity dans ses livres, donc cet ancrage dans le Sud, bien qu'après il ait beaucoup voyagé, le rapproche au fond d'écrivains justement du Sud des États-Unis. Vous avez parlé de Faulkner, mais il y a eu toute une descendance, j'ai pu dire, des gens à peu près du même âge que William Goyen, de la même génération, comme Truman Capote, comme Carson McCullers, comme Flannery O'Connor. Est-ce que vous voyez au fond dans cette littérature quand même des points un peu communs, ou est-ce que vous pensez que William Goyen est quelqu'un de totalement solitaire au milieu de tout ça?
Oh, non, bien sûr, il y a des points communs. Il y a la présence de la Bible qu'il cite constamment. Il y a Caïn et Abel, il y a des thèmes bibliques, en dehors même des citations. Il y a cette dimension religieuse, pourrait-on dire, qu'ont les gens du Sud, la dimension visionnaire aussi. Enfin, cette réalité qui est toujours doublée de l'invisible, tout ça appartient à la littérature du sud des États-Unis, qui, moi, en tant qu'anglicisme, est plus familière que celle du nord. Mais il y a autre chose chez William Goyen, évidemment. Il y a ses obsessions personnelles, telles qu'elles ressortent, par exemple, dans cette merveilleuse nouvelle qui est une serre prise dans la glace dans Précieuse Porte. En quelque sorte, chacune de ces nouvelles contient en germe toute son œuvre. On retrouve dans chaque nouvelle tous ces thèmes. Il y avait une telle force d'inspiration que ça imprègne vraiment chaque phrase. Alors, la serre prise dans la glace, c'est l'histoire d'un homme qui est exclu d'une serre chaude et rose et vibrante, et qui est le seul domaine de vie dans une ville prise par la glace et la neige et la mort. Et cet homme regarde cette serre, qui est tenue par un jardinier alcoolique, et il se demande comment y pénétrer. Et parce que toute cette beauté lui est interdite, il a envie de la détruire. Alors déjà, là, je ne sais pas, ça fait penser au pavillon d'or de Mishima, ça rappelle beaucoup de choses, ce thème de la haine, de l'exclusion, de la volonté de détruire. Et on comprend peu à peu que ce jardin est à la fois celui de l'innocence, le paradis perdu, interdit, mais aussi celui de l'érotisme et de la sexualité. Autre thème très très important chez Goyen, il voit dans cette serre, tout à coup, s'abattre le corps d'une femme nue. Et c'est d'ailleurs ce qui va faire exploser la serre et lui permettre de rentrer dans la serre. Et là, il y a une scène érotique d'une rare violence entre le jardinier et la femme, qui se confondent jusqu'à n'être plus qu'un corps androgyne, autre thème important chez William Goyen. Donc vous voyez, comme dans une seule nouvelle, on a concentré tout ce qui est important dans l'œuvre, le thème de l'amour et du meurtre, car cette femme, elle est suicidée, mais on ne sait pas si elle n'a pas été tuée. On a le thème de l'androgyna, on a l'érotisme tout puissant, on a le thème du paradis perdu et de l'exclusion, et puis celui de la haine, de ce qui peut être imaginé comme la pureté, cette pureté inaccessible.
Patrice Repusseau, à mesure que William Goyen progresse dans son œuvre, il devient un plus simple du point de vue stylistique.
Voilà, donc il fait sacrifice de ses points les plus forts. Alors ça, c'est un point très intéressant.
C'est de ses points artistiques. Alors voilà. Là, il doit voilà. Mettre un peu entre guillemets. Quoi.
Donc,
il a raison, bien entendu.
Mais attendez, je vais d'abord décrire ce qui s'est passé. D'un point de vue, on est obligé, quand on va comparer les deux premiers livres et les deux derniers, quand on compare La maison d'haleine et Le fantôme et la chair, et qu'on les compare à Precious Port et Arcadio, on voit qu'il s'est passé quelque chose de gigantesque. Alors c'est quoi ce qui s'est passé? C'est un sacrifice énorme. Donc Goyen a sacrifié ses adjectifs. Au début, il se battait avec les éditeurs pour les garder. Parce qu'on disait, il y a trop d'adjectifs. Il disait, non, je veux les garder. Il y a trop d'images, c'est trop chargé. Il dit non, il se battait, il voulait tout garder. Et à la fin, il a tout nettoyé. Parce que c'était pour lui, c'était donc qu'est-ce qu'il a? C'était indispensable. Il a fait le sacrifice de ses bijoux les plus précieux. D'une certaine forme de poésie, pas de sa poésie essentielle, de la surface de sa poésie, du reflet de sa poésie, du chatoiement de sa poésie. Mais la poésie elle-même, c'était le roc le plus dur qu'on trouve à la fin. Alors c'est vrai que tout l'aspect littéraire, il est complètement nettoyé au calcaire. À la fin, là, vous voyez, c'est la façade. Il y a plus de tuf, il y a plus de tuffeau, il y a plus que les pierres les plus granitiques, les plus dures qui restent. et dans des textes, d'ailleurs qui sont éclatés, les dernières nouvelles, c'est même plus une nouvelle, c'est un rassemblement de petits textes très courts, mais d'une violence presque insoutenable.
Mais au fond, c'est allé vers une pauvreté essentielle pour lui.
Absolument, c'était un appauvrissement qui était un enrichissement, parce que cet appauvrissement, c'était l'enrichissement spirituel pour lui.
Mais justement, là je comprends très bien ce que vous dites, mais était-il absolument indispensable, vous allez me dire oui bien entendu, mais de faire cette révolution extraordinaire pour peut-être, perdre une grande partie d'un mot qui appartient peut-être au démon, c'est-à-dire la séduction?
Ben là, vous avez dit, là, je pense que la séduction, elle le classerait définitivement et irrévocablement du côté démoniaque. Ça, je suis sûr.
Mais là encore, mais vous, en tant qu'acteur,
mais du son point de vue à lui, c'était pas un choix. C'est que il n'a pas choisi de le faire. Je dirais, il a été choisi de le faire.
C'est-à-dire
qu'il y avait cette pulsion qui voulait le dégager de cette gangue de souffrance qui l'étouffait pour le faire éclater à ce qu'il était lui-même, c'est-à-dire à son être essentiel. C'est cette pulsion, cette force qui l'agissait. Lui, il était agi plus qu'il n'agissait. Donc ça n'a pas été un choix, c'est que ça ne pouvait pas être autrement.
Est-ce qu'il avait la sensation d'être délivré, d'avoir trouvé une certaine paix, où il y avait encore du chemin à faire?
Ah ben on a toujours, tant qu'on est dans un corps de chair, je pense qu'on a toujours du chemin à faire. Ouais. Ça rime. Oui, mais, mais il est indéniable qu'il avait fait un chemin considérable. Considérable. Il a dit à sa femme, quand il a su qu'il avait une leucémie, qui était sans doute provoquée par un médicament qu'il prenait pour ses crises d'épilepsie, qui était épileptique depuis son enfance. Dès qu'il a su qu'il avait ça, il lui a dit « ce sera ça qui va m'emmener ». Et il n'en avait pas peur. D'ailleurs, elle n'a pas eu peur de sa mort à lui, parce que lui n'en avait pas peur. Et quand il est mort, elle est rentrée dans son lit, ça c'est extraordinaire, elle est entrée dans son lit et elle l'a entouré dans ses bras. Et ils sont morts dans les bras l'un de l'autre. Enfin, il est mort dans les bras de sa femme et dans une étreinte, je trouve ça merveilleux. Et il n'avait pas peur de la mort du tout. C'est-à-dire qu'il avait dû subir tellement de morts, on parlait de la mort de la séduction, mais également il avait dû dégager énormément de choses. Et il convient à ce propos de relire le texte extraordinaire qu'il a lu en public 3 mois avant de mourir, où il explique que la maladie est un état spirituel, et que quand on est... Et il était leucémique au dernier degré quand il a dit ça. Il dit qu'il ne faut pas essayer de se guérir tout de suite d'une maladie. Parce que si on prend tout de suite des cachets qui vous guérissent tout de suite, c'est que vous n'êtes pas guéri du tout. Vous êtes empoisonné, mais vous n'êtes sûrement pas guéri, parce que la guérison de la maladie, c'est la modification qu'elle va entraîner en vous-même. Et cette modification, il faisait un parallèle avec la lutte de Jacob avec l'ange. Et à la fin de cette lutte, l'ange lui démet la hanche. Et il disait, Goyen, qu'à chaque fois qu'il voyait quelqu'un dans la rue qui boitait ou qui avait une anomalie, il disait, celui-là a lutté avec Dieu. Ça aussi, des choses comme ça, vous lisez ça. Vous êtes jeune, vous n'oubliez pas. Moi, à chaque fois, maintenant, je vois quelqu'un dans la rue, je pense à Goyen qui traîne la jambe ou qui a une infirmité ou qui est un peu anormal, dit, tiens, encore un qui a dialogué, qui a eu de quoi faire.
Oui, mais en même temps, justement, quelqu'un qui souffre de cette façon visible, il me semble que dans presque l'éthique de Goyen, il est sauvé. Par exemple, vous faisiez allusion tout à l'heure à Arthur Bond, qui porte son verre en lui. Mmh. En même temps, il a une existence extraordinaire de souffrance, mais en même temps, évidemment, il arrive dans un certain éblouissement, finalement.
Enfin, éblouissement...
dans une certaine lumière, disons.
Enfin, lumière relative, parce qu'il est complètement bouffé par son verre. Et quand Arthur Bond meurt bouffé par le verre, l'impression qu'a le narrateur, c'est que le verre s'est mis Arthur Bond sur le dos comme un costume. Alors il y a une chose, puisque vous évoquez cette nouvelle extraordinaire, c'est qu'une fois qu'Arthur Bond est mort, le verre continue à vivre. Ça, c'est très intéressant. Donc le Arthur Bond n'existe plus, il est rongé, miné par le verre qu'il a bouffé intégralement, mais aux pompes funèbres, ils sont obligés d'arrimer le cercueil tellement il saute et il tressaute. Et d'ailleurs, il y a des gens qui arrivent de la campagne qui disent « qu'est-ce qu'il essaye de faire, Arthur Bond ?» On dirait qu'il essaye d'aller au ciel. Alors, le narrateur précise bien qu'il ne s'agit pas des vers qui vivent dans les cadavres. Mmh. Ce n'est pas du tout ça. Il dit que ce vers-là, c'est le vers de la folie, de la démence, du désir furieux, c'est le verre de ce qu'on n'arrive pas à maîtriser en quelque sorte. Et qui lui continue à vivre après la mort physique. Ça, c'est très intéressant.
Bien sûr, mais il dit bien aussi, le narrateur, je ne crois pas me tromper, je pense à Arthur Bond d'une manière agréable, comme s'il était sauvé, justement.
Ah oui, alors c'est que l'impact de l'histoire, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il y a c'est un retour sur le lecteur. Le lecteur est tellement saisi par cette histoire que d'un seul coup, il se met à penser à des choses sublimes avec des horreurs. Parce qu'à propos des histoires, Goyen disait une chose, il reprenait l'expression de Nathaniel Hawthorne, il disait « ce sont des histoires racontées deux fois ». Il disait que tout ce que je raconte, c'est des histoires que j'ai entendues et que je répète à nouveau. Et en les répétant, disons « je », il se passe quelque chose, une transformation en moi et dans mon auditeur aussi, celui qui va recevoir cette histoire, si elle est suffisamment forte, comme celui qui entend l'histoire d'Arthur Bond, d'un seul coup, il va sentir des fenêtres s'ouvrir, des fenêtres qui étaient demeurées closes jusque-là.
Il me revient qu'un homme qui s'appelait Arthur Bond avait un ver dans la cuisse, l'a eu pendant des années. Il avait attrapé ça dans les marais de la Louisiane, quand il travaillait dans les marais du temps où il était jeune homme. Il a porté ce ver toute sa vie dans la cuisse droite. Des fois, pendant un bon bout de temps, Arthur Bond disait qu'il se tenait tranquille. Mais il lui arrivait de se mettre en colère, de faire un foin de tous les diables. À ce moment-là, Arthur Bond disait qu'il était vicieux, et comme dans tous ses états, qu'il le piquait, le mordait, le brûlait. Arthur Bond disait que ça le démangeait, le chatouillait, le faisait souffrir. Arthur Bond lui-même nous racontait qu'alors il devenait fou. Le verre lui rendait la vie infernale. Logé dans la partie la plus douce de la cuisse, vous avez qu'à regarder vous-même et mettre la main, là où la chair est la plus tendre, et garde la chaleur des reins à mi-chemin entre le genou et le bas-ventre, où c'est moelleux et charnu et si douillet, comme quand on tient un sein de femme. J'ai remarqué que les parties de l'homme et de la femme se ressemblent beaucoup, même au toucher, et pourquoi pas? Un seul Dieu les a fait tous les deux, a tranché la question dans le jardin, il les créa mâles et femelles, et pourtant, Dieu sait si chez certains, les choses sont encore confuses. Mais je ne veux pas me lancer sur ce sujet. Arthur Bond racontait qu'un beau jour, le ver s'est mis à vouloir sortir par son genou. Il disait qu'il voyait sa tête dans un trou qui s'était formé dans son genou. Les docteurs ont tiré sur le ver pour essayer de l'enlever, mais il a cassé et est retourné vivre dans la cuisse d'Arthur Bond. « Sans tête », disait Arthur Bond. « Seigneur Jésus, un ver sans tête !» Les docteurs ont conservé la tête, l'ont mise dans un flacon, et le visage était joli, le ver, quand on regardait et qu'on le voyait vous regarder en suspension dans son liquide, avait un vrai visage de petite poupée. Personne, pas un docteur, a été capable de tuer ce maudit ver des marais de la Louisiane qui vivait sans tête dans la cuisse toute pâle d'Arthur Bond. Il est mort avec le ver, vieux et ignoble, qui prospérait dans sa cuisse. Pauvre Arthur Bond. Ce ver des marais l'a fait souffrir toute sa vie, dès l'âge de 18 ans, et a accompagné Arthur Bond sous la terre à 66 ans. Mais la tête du ver, avec son joli visage de poupée, ballotte toujours dans un flacon où Arthur Bond l'a laissé à sa mort, à la science, à l'université. Pourtant, Arthur Bond lui-même a jamais été jusqu'au lycée. C'est-y point drôle. Il est allé travailler dans les marais à 14 ans. S'il n'était pas allé travailler dans les marais, je me demande bien ce qu'aurait été sa vie. Je veux dire, sans ce ver de malheur. Arthur Bond.
Ce qui frappe à la porte chez William Goyen, alors là je reviens un peu à la composition de ses textes, c'est précisément les voix. Enfin, si des voix peuvent frapper à la porte. Oui. Mais c'est très étrange la façon dont les livres sont écrits la plupart du temps, c'est-à-dire que c'est des livres qui sont très proches de l'oralité d'une certaine façon. C'est-à-dire que quelqu'un vous raconte une histoire en lui-même. Il y a le narrateur, il y a un narrateur, si on veut, et dans le narrateur, il y a d'autres voix qui prennent la parole à sa place. Et dans pratiquement tous ces textes, il y a cet aspect, quelqu'un qui vous parle, qui entend quelqu'un qui lui parle, et on restitue ces voix. Et le corps est le lieu de toutes ces voix, de tous ces fantômes en train de parler. Et en réalité, je me suis toujours demandé à quoi correspondait justement cette façon de procéder. Parce que c'est les voix qui recréent la nature, c'est les voix qui recréent la rivière, c'est les voix qui recréent les images de l'amour, etc., etc. C'est les voix elles-mêmes qui recréent les anecdotes, si l'on peut dire, les anecdotes d'une vie. Et ces voix, elles sont très différentes et en même temps, c'est la même.
Oui, parce que ça, c'est un trait de la personnalité de Goyen, c'est qu'il avait une propension à une porosité, je crois que c'est un mot qui convient bien, une porosité aux êtres, hein, c'est-à-dire qu'il aspirait tous les êtres, il les intégrait, et quitte à perdre son équilibre.
Alors l'oncle Ben dit tout doucement comme dans un rêve. Une fois, en chassant le lapin le long de la rivière asséchée, j'ai surpris une personne qui se lavait dans une mare de Trinity River. C'est vrai? Je me suis accroupi dans les herbes et je ne pouvais pas en croire mes yeux. D'abord, je me suis dit, c'est un baptême dans la rivière, une personne qui se baptise, j'ai pensé. Je l'ai vu qui se lavait tranquillement dans la rivière, pratiquement sans un bruit, rien que ce doux murmure réconfortant que seul peut faire l'eau qui ruisselle. Et pourtant, ça rappelle aussi le chant d'un oiseau au plus profond de la nuit, quand on dort dans les bois et qu'on l'entend alors qu'on est couché. Presque comme, pour vous consoler, on dirait. Un peu comme la voix d'une mère. Et quand on prend soin de quelqu'un et qu'on veut le rassurer et le calmer, un bruit apaisant, c'est ça que fait l'eau quand on la prend, qu'on l'élève dans ses mains, qu'on la verse, et qu'elle se brise contre la chair, comme celle du corps magnifique que j'ai surpris debout, jusqu'aux genoux dans l'eau de source claire, à l'endroit caché où dans le temps la rivière coulait sous les arbres. Et là, je l'ai vu se pencher lentement pour prendre de l'eau et la répandre sur tout son corps magnifique. S'asperger avec, et l'eau aurait pu être du sable et du grain doux, la personne aurait pu se trouver dans un champ, sauf qu'il n'y a rien au monde qui ressemble à de l'eau de source. C'est vraiment unique, de l'eau de source pure. Non? J'adore l'eau de source. J'aime l'eau sous toutes ses formes. Et c'est vraiment étonnant quand on sait que maman a failli se noyer dans la rivière alors qu'elle me portait depuis 6 mois dans son ventre. Je sais ce que l'eau peut me faire éprouver. C'était juste à la tombée du jour. C'était tellement beau, je peux rien dire d'autre. Si seulement je pouvais trouver mes mots ou en avoir une image. Ce que j'ai fait, ça a été de pas déranger la belle personne inconnue, de me relever dans les hautes herbes sans un bruit et de m'en aller. Pour laisser la personne tranquille, pour laisser le corps magnifique tranquille, je voulais pas partir. Je me suis retourné et j'ai vu, au tout début du crépuscule, la forme se baisser, prendre de l'eau et s'asperger étincelante, se laver comme si elle dansait très lentement alors qu'elle faisait simplement sa toilette. Et c'est alors que je me suis aperçu que c'était à la fois un homme et une femme. Une partie homme lavait doucement la partie femme et la femme doucement l'homme. La partie femme baptisait l'homme et l'homme baptisait la femme. Qu'il était saint, qu'il était charnel. Le corps de cet être était si saint et si charnel que j'en étais comme partagé en deux. Qu'il avait tant de respect pour lui-même et qu'il s'accordait tant de tendresse, c'est ce qui m'a fait si mal. Ça a été comme une douleur soudain dans ma poitrine d'être témoin de toute cette tendresse. Et pourtant, j'arrivais pas à retrouver mon souffle. Et j'éprouvais toutes sortes de sentiments que je me rappelle encore parfaitement. Et je me suis retourné à nouveau pour partir et abandonner le beau baigneur. Et alors j'ai senti à ce moment-là de la journée, c'était début mai, je me souviens, à quel point il était seul. Et j'ai senti combien tout ce qui était là était désolé à ce moment de la journée où le soleil se couche. Ce qui restait de Trinity River réduit à une mare, toutes les sources vives qui avaient fait couler une longue rivière à travers les basses terres donnant plus qu'un filet d'eau qui s'écoulait goutte à goutte, et le dernier baigneur dedans, comme le fantôme de la rivière perdue, comme si l'humanité entière s'y baignait tout ensemble, tous les hommes, toutes les femmes, pour la dernière fois, dans Trinity River. C'est l'impression que j'ai eue. Et le ruissellement de l'eau, cet endroit merveilleux, et cette paix, et cette tristesse, que j'ai jamais oubliée. Et là, sous un saule, j'ai trouvé les affaires du baigneur. Un vieil uniforme d'officier soigneusement plié, et une casquette, et une Bible écrite en mesquin, qui avait été blanche, mais qui était jaunie à présent. Et de cette Bible blanche et jaunie est tombé par terre ce que j'ai pris, ou plutôt volé, parce qu'il fallait que je l'aie. Une image, aux couleurs passées et abîmées d'avoir été souvent maniée. Elle représentait le gentil Jésus qui frappait à une porte la nuit en tenant une lanterne allumée, et dessus on pouvait lire « La lumière du monde ». Et au dos, écrit à la main en grandes lettres, j'ai vu un nom inconnu. Arcadio.
J'ai vécu des choses extraordinaires en traduisant Goyen. J'ai pleuré. J'ai pleuré à plusieurs reprises. Quand j'ai traduit le début d'Arcadio, c'est un livre dans lequel Goyen a inventé une langue qui n'existe pas, puisqu'il a fait parler un personnage qui est moitié-moitié. Il est moitié texan, moitié mexicain, moitié homme, moitié femme. Et il a inventé une langue qui est moitié anglais, moitié mexicaine, moitié on ne sait pas trop quoi. Donc il a fallu que je trouve quelque chose. Alors ce qui m'a sauvé, c'est que j'avais un beau-père paysan, mayennais, qui a une syntaxe très très particulière. Donc j'ai utilisé la syntaxe de mon beau-père, donc ça a été un support, ça. Et à chaque fois que je traduisais une phrase, je demandais à ma femme, je la lui lisais, est-ce que ton père aurait pu dire ça? Même si le malheureux, s'il avait entendu ce que je traduisais, il aurait eu une crise cardiaque, mais je lui demandais, est-ce que syntaxiquement c'est correct? Et c'est ça, c'était mon repère. Donc ça, c'est une expérience de traducteur. Il fallait choisir quelque chose. Et alors, donc, j'ai pris cette syntaxe sans subjonctif, et puis des phrases complètement délirantes. Hein, c'est plus du français.
Mais en anglais, c'est plus de l'anglais non plus.
Non, c'est plus de l'anglais. Oui. C'est plus de l'anglais, c'est plus du mexicain, c'est du moitié-moitié. Mm. Hein, c'est Goyen. Goyen, c'était moitié-moitié. Il était moitié ange, moitié démon. Il était moitié Ésaü, moitié Jacob. Il était moitié lumineux, moitié ténébreux. Donc c'était moitié-moitié. Il n'agissait pas, il était agi. Hein. C'était une impulsion extraordinaire de vitalité, de vie qui le poussait. Il ne se posait aucun problème sur le devenir.
Il était certain de son œuvre.
Totalement, totalement. D'ailleurs, il ne se posait même pas la question. Ça venait plein pot. Il écoutait, comme il disait, parce qu'il disait qu'il écoutait plus qu'il n'écrivait. Alors là, nous abordons à des rives très intéressantes. Il a parlé de la notion de l'ange. Et dans ses nouvelles de la fin, il y a des anges qui apparaissent. D'ailleurs, il y a un titre qui s'appelle « Langue d'homme et d'ange ».
L'un de ses derniers textes.
Un de ses derniers textes. Donc pour lui, il écoutait, c'est-à-dire qu'il faisait de l'écoute. Ce n'est pas lui qui écrivait. Il était le bras de quelqu'un qui parlait en lui. Mais alors là, je pense qu'on ne va pas parler de ça parce que ça devient... Qu'est-ce que c'est que l'inspiration ?
Que contrôlait-il, à votre avis ?
Ah ben, il contrôlait de plus en plus la manière, parce que c'est quelqu'un qui avait passé sa vie à écrire, et Dieu sait, tout le monde sait qu'il écrivait merveilleusement bien. Alors, il essayait de contrôler l'autocensure, parce qu'il y avait des choses très violentes qui devaient venir à la surface, et il craignait de se censurer. Donc il essayait de ne pas le faire, parce qu'il était nécessaire que certaines choses qui peuvent sembler d'un point de vue littéraire secondaire, pour lui, étaient absolument primordiales. Donc ça, il essayait de ne pas se censurer, mais il était évident que ce qui est resté, c'est des choses parfaitement maîtrisées, qui ne sont pas, bien sûr, pas du tout du premier jet. À ce propos, il faut savoir que Goyen était capable de travailler 15 ans une nouvelle. Dans les nouvelles les plus confondantes du dernier recueil, la serre prise dans la glace, il a travaillé 15 ans ce texte. Il y a toute son œuvre dedans. Il y a toute sa vie, tous ses problèmes les plus intimes, d'ailleurs dans tout ce qu'il écrit.
Il y a toute son œuvre, oui.
Il y a toute son œuvre dans tous ses textes.
Je crois à cette obligation de raconter, tant qu'on est vivant et qu'on peut se donner encore du plaisir. Quand le moment de raconter est venu, allez-y, comme je dis toujours, dégueulez tout ce que vous avez dans le ventre. Nous ne pouvons pas nous empêcher de raconter les choses de notre existence, les choses qui sont arrivées, les choses que nous avons imaginées et les choses dont nous avons rêvé ou qui nous hantent. Parce que tu sais, petit, le moment où il faudra que je ferme la bouche et que je reste chez moi assise dans une chambre, harcelée par un fantôme et ligotée à ma chaise, ce moment-là revient toujours. T'inquiète pas, il revient toujours. Il y a un temps pour les histoires et un temps pour rester tranquille à endurer les tourments des fantômes. Alors, écoute-moi bien pendant que je raconte, parce que je suis dans un de mes moments où il faut que je parle. Et je te conseille de courir bien vite si tu ne veux pas entendre ce que je vais te dire, car voici, je commence. Le monde n'est plus le même. Buvons notre bière. Et donnons-nous du plaisir, comptons des histoires et encore des histoires. La prochaine fois que tu me reverras et que tu voudrais me faire parler, ben, tu m'entendras pas. Je serai là où il m'est impossible de bouger, comme l'année dernière, assise, cachée, jusqu'au jour où, de nouveau, je pourrais dire « Oh, va-t'en, va-t'en, vieux fantôme. » Et laisse-moi tranquille. Parce que j'ai appris quelque chose, et je vais te le dire. Il y a un temps pour ce qui vit, et il y a un temps pour ce qui est mort, un temps pour les fantômes, et un pour la chair et les os. Nous, les humains, on est moitié fantôme et moitié chair, moitié feu et moitié cendre. Mais je crois que la partie fantôme et celle qui dure le plus longtemps. Le feu flambe vite, mais les cendres durent éternellement. Le feu, je l'ai eu en Californie. C'est l'eau qui l'a éteint. Et les cendres, dans le Texas. Et elles se sont changées en terre. Mais je dis maintenant qu'il y a un monde pour chaque chose. Un monde pour les fantômes et un monde pour la chair. Et je crois que la vraie solution, la meilleure, c'est de prendre nos deux mondes, fantômes et chairs, de les prendre chacun à son tour, avec tout ce qui les accompagne, prendre un fantôme et souffrir avec lui en restant bien tranquille, et prendre la chair et les os et se donner du bon temps et courir même au-devant des mondes qui se présentent, et être ce que chacun de ces mondes demande que nous soyons. le fantôme et la chair.
My days have grown so lonely. For you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my day.
William Goyen, 1915-1983. Avec la collaboration de Patrice Repusso, Christine Jordis et Hector Bianciotti. Voix de William Goyen et de Maurice Edgar Coindreau grâce aux archives de l'INA. Nous avons entendu trois Negro Spirituals chantés par Marianne Anderson et les textes de William Goyen ont été lus par Jean Bollery et Mathieu Mével. Mixage Ariane Herbé, réalisation Olivier Copin. Une émission de Christian Giudicelli.
That you throw away romance. Are you pretending it looks like the ending? Unless I can have one more chance to prove dear my life a wreck. You're making. You know I'm yours for just the taking. Oh, I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul.
soul. I can't believe it. It's hard to conceive it that you'd throw away romance. Are you pretending? It looks like the ending, unless I can have one more chance to prove, dear, my life a hell you're making. You know I'm yours for just the taking. Oh, I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 23 juillet 2000. Mm-hmm.